Pour les gens qui me connaissent peut-être un peu moins, je suis professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, depuis 2005. Donc, j'interviens là principalement auprès des futurs enseignants du secondaire dans des cours d'intervention éducative. Puis, je suis impliqué aussi au niveau de la supervision des stages dans les écoles. Sur le plan de la recherche, là, depuis environ 5 ans, je dirige une équipe qui réunit là, une vingtaine de chercheurs. On s'intéresse là, principalement au processus de travail entre des chercheurs et des intervenants des milieux scolaires. Donc, on est vraiment là, sur des éléments plus de processus. Alors, ça m'a fait vraiment plaisir là, d'être invité à cette rencontre aujourd'hui pour faire un petit commentaire conclusif, là, puisque vous êtes on s'intéresse vraiment à des éléments semblables là, de part et d'autre. Donc, voilà, là, peut-être pour une brève présentation. Bah, écoutez, d'entrée de jeu, j'ai trouvé vraiment super là, ce que vous avez présenté. La première réaction que je me suis fait en écoutant les deux présentations, en fait, ça m'a ramené à une figure de proue de la recherche collaborative au Québec, qui est Serge Desgagnés. Et Serge Desgagnés, lorsqu'il a développé son approche dans les années, fin des années 80, début des années 90 au Québec, parlait de la recherche collaborative en trois grands temps. Le premier temps, c'était la phase, disons, de co-situation, où les parties prenantes, dans le fond, définissent un objet commun. Donc, essentiellement, là, c'est ce qu'on fait là, en co-situation, c'est la façon dont il conceptualisait ça. Ensuite, on passe en mode coopération. Bon, on pourrait discuter à la lumière de la discussion qui vient d'avoir entre coopération, collaboration, on pourrait discuter là, du concept, mais essentiellement, c'est le travail ensemble qui est fait pour opérationnaliser en fait ce qui a été co-situé, l'objet de travail commun. Puis la troisième phase, il en parlait comme celle de la coproduction, où là, dans le fond, on est plus en phase de diffusion des résultats de ce que la coopération a donné. Ça peut être de la coproduction d'artefacts ou de matériel pédagogique. Donc, ça peut prendre différents usages. Et donc, en vous écoutant, ça m'a rappelé, dans un premier temps, là, cette conceptualisation. Puis je me suis dit que dans ce que je constate en fait, c'est que vous avez vraiment amené la phase de coopération à un autre niveau. Autant dans le premier exemple où là, c'est le chercheur qui a pris en charge la classe, que dans le second où on a invité des intervenants à venir observer une personne, en fait le formateur chercheur, l'enseignant chercheur dans le fond, au Québec. Je n'ai pas vu ça souvent, je vous dirais, ce genre de coopération-là. Ce qu'on voit, c'est beaucoup de co-situation. Dans certains cas, la co-situation est même un peu plus prise en charge par les milieux de pratique. Je pense entre autres à notre consortium de recherche ici, là, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on part vraiment des besoins énoncés par les milieux scolaires. Les chercheurs, évidemment, mettent leur grain de sel. Ça se fait conjointement, mais avec, disons, un accent tonique qui vient des milieux scolaires. La phase de coopération, on l'amène beaucoup ensemble aussi, mais je vous dirais que ce qu'on fait essentiellement, c'est surtout de la co-analyse, de l'observation comme telle, ou même de la prise en charge de l'intervention d'autrui. J'ai pas vu ça souvent. Et ça me, honnêtement, ça m'impressionne. Vous avez beaucoup parlé de l'importance des relations égalitaires. Ça aussi, on en parle beaucoup ici. On le met beaucoup au cœur de nos projets. Mais ce que vous avez réussi à atteindre, je pense que ça montre le niveau de confiance qui a été développé dans ces deux Léas-là. C'est quelque chose d'ouvrir sa classe à une personne qui n'a pas nécessairement cette pratique-là en tant que telle, a priori. C'est quelque chose de laisser sa classe à une personne qui a une pratique de recherche, Puis je comprends tout à fait la déstabilisation que vous avez pu vivre là-dedans. Donc, bref, mon premier commentaire est vraiment de cet ordre-là. Vous avez vraiment amené, je trouve, là, le niveau de coopération là, à vraiment un autre niveau, là. Moi, en tout cas, je trouve ça très, très inspirant. J'en parlais un petit peu avec ma collègue Pascale en clavardage, là, puis je pense qu'elle partageait là, un peu mon avis là, par rapport à ça. J'ai envie de revenir à la question initiale que vous avez posée pour camper la rencontre d'aujourd'hui. Donc, vous posez la question, comment dépasser une répartition des rôles associés à la profession des acteurs? Ben, en fait, un début de réponse, un début de réponse, j'ai envie de la formuler comme ça. En fait, la recherche collaborative n'est-elle pas, dans le fond, une activité à part entière qui regroupe des gens d'activités différentes? Vous l'avez bien illustré là, dans vos deux exemples. Mais en même temps, cette activité-là, elle requiert en soi une conceptualisation d'une nouvelle activité qui est bien différente de l'activité standard de recherche, qui est bien différente de l'activité d'enseignement classique. Donc moi, quand je suis chercheur, ben je prends part à une activité qui a une division du travail, qui a des règles bien précises, qui a une finalité aussi très précise de celle d'un enseignant. Et lorsque je me mets en recherche collaborative avec des gens, ben à quelque part, il y a une négociation d'une nouvelle finalité. Donc, ce que vous avez fait dans vos Léas, c'est pas uniquement la pratique classique du chercheur. Ce n'est pas uniquement la pratique classique d'un enseignant qui est avec ses élèves. Donc, il y a une conceptualisation nouvelle qui est nécessaire de cette finalité-là. Donc, dans les deux cas, vous aviez une finalité bien précise. Dans le premier cas, vous avez travaillé ensemble sur bon, l'acquisition des langues dans une perspective bon, plurilingue. Dans le second cas, vous étiez plus au niveau des sciences. Donc, vous avez reconceptualisé la finalité première de ce qu'est un chercheur et la finalité première de ce qu'est un enseignant. Et ce qui vient avec ça, dans le fond, c'est comme la finalité, elle est différente, ben on a besoin d'outils, puis ça peut être des outils plus techniques, ça peut être des outils sémiotiques, mais ça implique aussi une nouvelle division du travail. Ça implique aussi des nouvelles règles de travail. Et c'est pour ça que je me dis, dans le fond, est-ce que réellement, j'ai envie de dire, oui, dans un sens, ça nous sort de nos rôles classiques, mais j'ai envie de dire, l'activité même de recherche collaborative est une activité différente et qui a ses rôles, qui a sa façon de faire. Et en ce sens-là, tu sais, j'ai envie de dire, oui, ça nous sort de nos rôles, mais ça nous amène surtout dans une nouvelle activité qui a ses propres façons de faire. Tu sais. Le centre de recherche auquel j'appartiens, le centre de recherche le centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire, a une espèce de devise qu'on a formulée depuis longtemps comme étant pas de recherche sans intervention et pas d'intervention sans recherche. Je trouve ça très, très parlant dans le contexte des présentations d'aujourd'hui parce que je trouve que vous avez vraiment réussi à amener un peu plus loin une prémisse fondamentale de la recherche en collaboration qui est celle du rapprochement de deux ou de plusieurs cultures, de deux ou de plusieurs pratiques, de deux ou plusieurs activités. Il y en a même qui vont parler de solitude. Puis avec ce que vous avez fait dans la phase de coopération, je trouve que vous avez vraiment amené à un autre niveau d'imbrication la recherche et l'intervention. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose là, de super là, je trouve. En tout cas moi je trouve ça très rafraîchissant. J'ai retenu entre autres une expression, je pense que c'est Livia qui disait sortir des cadres. Ben tu sais j'ai envie de dire la recherche en collaboration dans le fond c'est un cadre à part entière. Tu sais la pratique de chercheur standard ben c'en est un. L'enseignant qui est dans sa classe avec les élèves, ben c'est un cadre comme tel que nos institutions se sont donné. Et je trouve que là, dans le fond, vous avez carrément créé un cadre très, très nouveau en mélangeant, dans le fond, certaines responsabilités qu'on ne voit pas souvent se mélanger. Et donc, pour moi, ce que vous avez illustré, c'est que la recherche collaborative, c'est bien plus que de la recherche en tant que telle. C'est une façon, dans le fond, à part entière, vous l'avez bien illustré, je pense, d'articuler d'une part la formation, l'intervention pour des élèves, la recherche, mais aussi le développement professionnel. Vous avez beaucoup parlé, peut-être un petit peu plus dans la deuxième présentation, des retombées. Mais je trouve que ça montre que la recherche collaborative est un cadre à part entière qui va venir briser les silos. Et là, vous avez amené, je trouve, à le bris des silos, c'est vraiment dans l'intervention que vous vous êtes permis de faire. Tu sais, c'est-à-dire ouvrir ma classe à un chercheur, pas uniquement pour qu'il vienne observer, mais pour qu'il puisse prendre en charge mes élèves, ou encore ouvrir la classe pour que des enseignants viennent observer ce qui se passe en formation initiale. Ça, je trouve que il y a un potentiel là, de rapprochement des frontières là, extrêmement pertinent. Je terminerai avec une question. Compte tenu des retombées quand même positives là, de vos expériences, donc des retombées que vous avez identifiées, est-ce qu'il serait possible de transformer l'organisation du travail au sein de nos institutions, donc que ce soit école, université, hein, à quelque part, ce sont des silos. Vous avez réussi à briser ces silos-là d'une façon différente. Et je me dis, là, vous l'avez fait pendant une durée précise, 3 ans, mais est-ce que cette façon de faire-là ou ces façons de faire-là, on pourrait réussir, dans le fond, à carrément les pérenniser au sein de nos organisations actuelles pour en faire une dynamique de travail, dans le fond, qui est pratiquement permanente? Donc là, vous avez ouvert la classe à des chercheurs, une prise en charge. Est-ce que ça pourrait pas se faire en continu, dans des moments d'alternance, à une fréquence qui serait à déterminer? Est-ce que des enseignants ne pourraient pas venir à une fréquence à déterminer, mais en continu, venir observer ce qui se fait en formation initiale? Donc là, ça s'est fait dans une temporalité assez déterminée. La question que je pose, c'est est-ce qu'on pourrait pas carrément changer notre organisation du travail pour que ce genre de pratique-là devienne pérenne? Donc, voilà.